Alors maintenant, ça c'est la matière, mais il faut que la matière interagisse. Il y a donc des forces. Alors, chose curieuse, aujourd'hui on ne connaît que quatre types de forces. La gravitation, qui nous pousse vers le sol, l'électromagnétisme, ça c'est la lumière, parce que la lumière est une onde électromagnétique, tous les phénomènes électriques et les phénomènes des aimants, etc., c'est la force dite électromagnétique, et à l'intérieur des noyaux, il y a des forces qu'on appelle nucléaires fortes et nucléaires faibles. Parce qu'à l'intérieur des noyaux, le noyau est une drôle de réalité, puisque vous devez mettre ensemble des tas de protons. Et les protons, ça a la même charge électrique, et des charges électriques de même signe se repoussent. Comment se fait-il que les protons tiennent ensemble dans le noyau alors qu'ils ont même charge? Ça, c'est parce qu'ils sont liés par des forces très fortes qu'on appelle la force nucléaire forte. Et il y a aussi une force faible, qui est une force qui est en jeu à l'échelle du noyau, et il y a quatre forces connues aujourd'hui. Uniquement quatre forces. Mais si on remonte dans l'histoire de l'univers, au plus on monte en énergie, au plus on monte en température, au plus ces forces ne font qu'une. Et donc, on pourrait dire, il y a l'histoire de l'univers est aussi l'histoire de la phylogénie des interactions fondamentales. Autrement dit, au départ, on a un tronc commun, et quand l'univers se refroidit, les interactions apparaissent. Un peu comme, dans le fond, dans l'histoire de la vie, à partir d'une souche commune, on voit apparaître différentes espèces. Eh bien, en physique, c'est la même chose. Dans l'histoire de l'univers, apparaissent progressivement les différentes interactions. Au départ, apparaît l'interaction gravitationnelle, puis apparaît un peu plus tard, vous voyez, 10-33 secondes, apparaît l'interaction forte, et puis une interaction qui regroupe l'interaction faible et l'interaction électromagnétique. Et puis un peu plus tard, 10-10, l'interaction faible apparaît et l'interaction électromagnétique apparaît. Autrement dit, il y a une histoire des lois de la physique. Les lois de la physique évoluent elles aussi. Donc, non seulement les phénomènes évoluent, mais les lois de la physique elles-mêmes ont comme évolué. Alors vous avez ici la description. Au plus l'univers se refroidit, au plus apparaissent des phénomènes nouveaux. Par exemple, il y a une soupe de particules élémentaires, quarks et leptons, qui sont agitées. Très forte température. Regardez ici, la température est de l'ordre, ici à 10-43, de 10-32 degrés. 10 exposant 32 degrés. Et ici, 10 exposant 16 degrés. Bon. Là, la soupe est encore... Oui, il n'y a pas encore de grumeaux. Elle est très chaude. Tout est en train de tournoyer, etc. Puis l'univers se refroidit. À 10-12 degrés, c'est-à-dire aux environs de 10 exposant moins 4 secondes, 0,0001 seconde après le Big Bang, les quarks commencent à se rassembler ensemble pour former des protons et des neutrons. Les particules se mettent ensemble, bouf, et commencent à coller. Et comme la température diminue, vous voyez, ils ont moins d'énergie, alors les forces commencent à agir, et bouf, et se collent, les quarks se collent, et forment des particules élémentaires, neutrons, protons. Et puis la température diminue. Nous sommes environ à une seconde après le Big Bang. Que se passe-t-il? Eh bien, ces protons et ces neutrons commencent à se rassembler. Et par exemple, vous prenez deux neutrons et deux protons qui se collent ensemble pour faire le noyau d'hélium. Noyau d'hélium, c'est deux protons, deux neutrons. Donc, à environ une seconde, commencent à apparaître les noyaux légers. Et pendant environ 3 minutes, 180 secondes, environ 3 minutes, tous les noyaux légers de l'histoire de l'univers sont créés. Donc, quand ici, je prends de l'eau, H2O, il y a ici de l'eau, de l'hydrogène, c'est un noyau léger. L'hélium, c'est un noyau léger. L'hydrogène, c'est simplement un proton. D'accord? Eh bien, l'hydrogène qui est dans H2O, l'hélium qui est dans l'atmosphère, etc., toute cette matière a été créée pendant les 3 premières minutes de l'univers. Après, l'univers n'est plus assez chaud pour forger des noyaux d'hélium en telle quantité. Donc au bout de 3 minutes, tout l'hydrogène et tout l'hélium de l'univers est fini, est créé, est constitué plus exactement. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primitive. Entre 1 seconde et 3 minutes, la température chute entre 10 exposant 10 et 10 exposant 9 degrés Kelvin et tous les noyaux légers se forment. Bon. Alors maintenant, j'en viens progressivement à une question. Pourquoi est-ce important de connaître ça? Parce qu'en fait, ces noyaux légers vont se retrouver dans l'univers et vont par fusion donner des noyaux lourds, on va voir comment, qui eux-mêmes vont constituer la vie. Bon. Si quelque chose se détraque dans le processus ici, ou change, il peut y avoir moins d'hélium, moins de protons, moins de neutrons, et quelque part, on peut avoir des changements drastiques dans la constitution des noyaux qui vont servir à la vie. Ici se passent des choses fondamentales où la moindre perturbation pourrait entraîner la non-possibilité de faire des éléments fondamentaux pour la vie. Mais je continue encore. L'univers se refroidit. Donc les noyaux sont là. Il y a du rayonnement électromagnétique. Il y a des particules. Et tout ça, c'est très mélangé. Donc il faut imaginer un plasma avec beaucoup de noyaux. De noyaux légers, hydrogène, hélium, etc., qui sont confinés parce que la taille de l'univers à ce moment-là est relativement petite. Et il y a du rayonnement. Mais quand il y a beaucoup de particules, le rayonnement est bloqué. Parce que chaque fois qu'un rayon essaye de se propager, il est bloqué par une particule. Maintenant, imaginez que l'univers est en expansion. Que se passe-t-il? Les particules s'écartent. Et comme les particules s'écartent, les obstacles s'écartent, et tout d'un coup, bouf, la lumière peut sortir. Et quand se passe cet événement? Cet événement se passe quand l'univers commence à refroidir et quand l'univers est assez grand, a déjà été en expansion pendant un certain temps. Ça se passe il y a 300 000 ans, 380 000 ans exactement. Il y a 380 000 ans, l'univers s'est détendu suffisamment pour que la lumière puisse passer. En même temps, les électrons qui tournoyaient autour de ces noyaux ont de moins en moins d'énergie parce que l'univers s'est refroidi et commencent à tourner autour des noyaux, les atomes sont créés. C'est là que se créent les atomes, les électrons tombent sur les noyaux parce qu'ils n'ont plus assez d'énergie pour s'en échapper, et en même temps, comme les particules sont loin l'une de l'autre, la lumière peut passer. Et c'est à ce moment-là que l'univers devient transparent. Et qu'une bouffée de lumière et de rayonnement commence à se propager dans tout l'univers. Jusque-là, l'univers est obscur. Le rayonnement n'est pas sorti du plasma. À cette époque, le rayonnement sort du plasma, l'univers devient transparent, une bouffée de lumière s'échappe et commence à envahir tout l'univers. À ce moment-là, l'univers a 3000 degrés Kelvin, hein, 3000 degrés, et cette bouffée de rayonnement à 3000 degrés commence à se propager dans toutes les directions et en fonction de l'expansion commence à refroidir. Et aujourd'hui, cette bouffée de lumière, nous en avons une photographie précise grâce aux satellites et ce rayonnement est à l'heure actuelle à 2,7 degrés Kelvin. Et c'est cette valeur que Penzias et Wilson en 65 ont mesuré. Donc dans toutes les directions de l'univers aujourd'hui, on mesure une température minimale qui vaut 2,7 degrés Kelvin. C'est pas beaucoup, hein. Donc ça veut dire 3 degrés environ Kelvin, ça veut dire moins 270 degrés Celsius. C'est froid, mais c'est pas zéro. Ça veut dire c'est 3 degrés au-dessus du zéro absolu, mais dans toutes les directions avec une précision, avec une homogénéité de l'ordre de 10 exposant moins 5. Donc, il y a 100, les petites perturbations qu'on voit sur ce rayonnement, c'est 100 millièmes de degrés. Et les petites fluctuations qu'on voit décrivent donc quelque chose qui se passait il y a 300 000 ans. Et à 300 000 ans, on voit déjà dans le rayonnement des petites imperfections qui correspondent aux premiers grumeaux aux premières, on pourrait dire, agglomérations de matière qui vont former les galaxies et les amas de galaxies. Donc la plus vieille photo de l'univers, c'est une photo qui date d'il y a pratiquement 14 milliards d'années. Hein. Donc 300 000 ans après le Big Bang, nous sommes maintenant environ 14-15 milliards, 300 000 ans, nous avons une photo grâce au satellite de ce qui se passait il y a 300 000 ans. Il y a 300 000 ans, nous voyons un univers à 3000 degrés avec une homogénéité très forte et avec des grumeaux qui correspondent aux germes des galaxies. Les premières galaxies, vraiment, n'apparaissant qu'un milliard d'années après le Big Bang. Alors, entre 3 minutes et 1 milliard, il ne se passe pratiquement rien dans l'univers. Il n'y a que des noyaux légers. Si la vie de l'univers se terminait à 300 000 ans, nous n'aurions pas la vie, parce que l'univers ne serait rempli que d'hydrogène et d'hélium. Autrement dit, on pourrait se dire, mais pourquoi est-on perdu dans un univers aussi vieux et aussi grand? Eh bien, la réponse est déjà en partie ici. Contrairement à ce que Monod disait, l'univers est trop grand pour nous, nous sommes une petite pourriture absurde à la surface d'un astre de banlieue, dans un univers trop grand pour nous, vous voyez, en fait, si l'univers n'était pas aussi vieux, il ne serait pas aussi grand non plus. Autrement, et s'il n'était pas aussi vieux, il n'aurait pas eu le temps de former des noyaux lourds. Parce qu'à 300 000 ans, il n'existe que des noyaux légers. Il n'y a donc pas encore de carbone, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de fer, de cuivre, etc. Un univers trop jeune, c'est-à-dire un univers petit, puisque l'univers est en expansion, jeune ça veut dire petit, un univers trop petit est un univers trop jeune pour avoir eu le temps de synthétiser les noyaux essentiels à la vie. Autrement dit, si l'univers est aussi grand, ce n'est pas, dans le fond, pour nous y immerger comme des stupides animaux. Il est grand parce que s'il n'était pas aussi grand, nous ne serions pas là.